Benaouda Abdedaïm.
Bien recadré ou pas par le chef du gouvernement, Arnaud Montebourg persiste et signe le nucléaire. C'est un secteur d'avenir, un atout, une source importante d'électricité dont dépendent de très nombreux emplois. Je cite le ministre du Redressement Productif. Le centre d'analyse stratégique placé auprès de Matignon a tenté de répondre à une question précise. Où sont les technologies énergétiques d'avenir compétitive et durable? C'est un ancien directeur général d'EDF, Jean Bergogneau, qui a été chargé de conduire les travaux. Jean Bergogneau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maintenant à la tête d'une association qui s'appelle Équilibre des énergies. Avant d'en venir à cette étude, dès lors que le président de la République s'est engagé pendant sa campagne à ramener de 75 à 50% la part du nucléaire d'ici à 2025, c'est très proche, est-il valable de parler de qualifier d'avenir un secteur national en décroissance?
Bon, alors il faut être tout à fait clair. Au plan mondial, la question est totalement tranchée. Le nucléaire est une énergie d'avenir. À partir du moment où la
nationale,
Chine,
j'ai pas dit mondial,
mais à partir du moment où la Chine, l'Inde, la Corée du Sud et quelques autres se lancent à fond sur le nucléaire pour satisfaire leurs besoins en énergie et préparent l'avenir d'un nucléaire durable, il est totalement impensable que l'industrie nucléaire française, qui est en pointe, qu'il s'agisse de la recherche, du développement ou de l'industrialisation, ne soit pas très fortement impliquée sur la scène internationale déjà.
Mais en quoi cela va compenser cette décroissance de la France par rapport au marché émergent?
Alors, la question qui se pose, c'est en effet, et là nous n'étions pas forcément mandaté pour répondre quantitativement, mais je vais vous donner des éléments qualitatifs de ce qu'on va faire en matière de nucléaire en France. La question qui se posera à horizon 2020, disons pour fixer les idées, les centrales nucléaires ont été construites massivement en France au début des années 80. Elles auront donc à cette date environ 40 ans. Et la question, est-ce qu'on prolonge leur durée de vie au-delà de 40 ans? Ou est-ce qu'on décide de les fermer progressivement à ce moment-là?
Si je vous comprends bien, Jean Bergogneau, le secteur d'avenir, finalement, c'est pour prolonger les centrales à 60, voire 70 ans.
60 ans me paraît une hypothèse raisonnable. Alors, on a fait des études approfondies dans le cadre de cette affaire. Et de manière paradoxale, pour une étude de prospective à horizon 2030-2050, on est parti de l'accident de Fukushima. Et on s'est interrogé. Bien sûr, on a très vite fait de dire, oui, il n'y a pas de tsunami en France, oui, les Japonais ont fait des erreurs, et donc nous, on risque rien. Non, c'est pas comme ça qu'il faut prendre le problème, il faut tirer les enseignements pour faire encore mieux. Et en fait, on a été conforté dans notre analyse par l'autorité de sûreté. D'ailleurs, dans le rapport, on n'a pas mis notre analyse à nous, on a mis ce qu'a dit l'autorité de sûreté. Mais c'est exactement ce qu'on avait anticipé comme décision à faire. Et ça, ça fait déjà un bon bout de chemin sur la possibilité de prolonger le nucléaire. Alors, moi, je crois que, si vous voulez, au-delà de la question même du nucléaire, c'est que ça constitue un socle solide pour promouvoir les énergies renouvelables de l'avenir. Et que si on n'a pas ce socle solide, voilà. Donc, il faut une politique équilibrée.
Il y a une méthode qui est en train d'installer le gouvernement. C'est une conférence transition énergétique à la mi-septembre. Une loi cadre sur l'énergie, ensuite, d'ici à un an. Est-ce que vous pensez que c'est un calendrier valable qui peut laisser le temps d'installer un consensus national?
Je crois que c'est un calendrier qui est tout à fait valable. Et en fait, notre ambition dans ce rapport qui vient de sortir hier, c'est bien de fournir des éléments de réflexion pour entamer sur des bases solides ce dialogue.
Donc ce rapport sous l'égide du Centre d'analyse stratégique placé auprès de Matignon, il se cantonne aux technologies visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Pourquoi restreindre le raisonnement à ces technologies seulement?
Parce que c'est quand même un objectif absolument majeur. Et de toute façon, cet objectif n'est absolument pas inconciliable avec d'autres. Bien évidemment, la première façon de réduire les émissions de CO2, c'est de consommer moins d'énergie. Et donc, on trouve ici la politique d'économie d'énergie. La deuxième chose, on est dans une logique de développement durable. Et donc, on pense à la marge de l'économie et au portefeuille du consommateur, pour parler trivialement. Et donc, on a examiné, au fond, les technologies qui sont susceptibles de faire progresser la question de réduction des émissions de CO2, soit par économie d'énergie, soit par fourniture d'énergie sur d'autres bases, on a regardé celles qui pouvaient émerger dans des conditions économiques raisonnables. Vous savez par exemple que les éoliennes, le photovoltaïque, sont rachetées à des prix qui aujourd'hui sont supérieurs au prix du marché européen de l'électricité. Bon, et la question, c'est de savoir quand ce gap va se réduire pour ne plus peser sur la facture d'électricité de nos compatriotes.
Quatre grandes propositions qui émergent de ce rapport. Vous reliez l'avenir des bâtiments à des centrales solaires au sol plutôt qu'à des panneaux sur les toits. Vous dites que ce serait moins cher. La question qui peut se poser, c'est où est l'expertise française pour réussir ce pari technologique ?
Oui, alors, quand j'entends centrale au sol, c'est-à-dire centrale de grande surface. Ça peut être sur le toit d'un centre commercial, ça peut être sur un parking, ça peut être sur tout ce que l'on veut. Mais l'expérience montre en effet qu'il coûte beaucoup plus cher de faire des photovoltaïques individuelles sur le toit d'une maison, aujourd'hui, ça peut changer demain, que de construire des grandes surfaces.
Ça peut changer demain si on importe d'Asie orientale, c'est ça ?
Ça peut changer demain si on fait de gros progrès dans l'intégration dans le bâti, etc. Donc, les progrès ne sont pas exclus. Mais aujourd'hui, si on veut développer des ensembles à énergie positive, il faut utiliser... Et ce qui nous conduit à préconiser qu'on raisonne non pas au niveau du logement individuel, mais au niveau d'un îlot, voire d'un écoquartier. Alors l'expertise, on l'a, hein, il faut être tout à fait raisonnable. Nous ne sommes pas des producteurs massifs de panneaux photovoltaïques, mais aujourd'hui le panneau photovoltaïque c'est le tiers du coût de l'installation. C'est tout ce qu'il y a autour. Et là, on est très bon.
Votre rapport propose aussi de continuer dans la voie du captage et du stockage du CO2. Mais pour l'heure, le procédé, disent les experts, est très loin d'être abouti, très loin d'être rentable. Qu'est-ce que vous proposez à ce sujet ?
Alors, premier point, en France, on n'en a guère besoin. On n'en a guère besoin. La production d'électricité utilise de moins en moins des centrales à charbon. Elles sont disséminées sur l'ensemble du territoire. On n'est pas dans des conditions très favorables. Maintenant, si les Chinois veulent continuer à en faire, il faut effectivement qu'ils se préoccupent de cette question. Et nous avons une industrie, je pense en particulier à Alstom, qui est tout à fait capable d'intervenir sur les centrales classiques, d'améliorer leur rendement et d'être partie prenante à cette affaire. Donc c'est le marché international qui dicte l'action.
Pour revenir au nucléaire, le 10 septembre, l'Agence internationale de l'énergie atomique réunit pour la première fois un comité de pilotage sur les méthodes d'enfouissement des déchets nucléaires, problème important. Sur quoi cela peut aboutir, selon vous ?
Alors la première chose, c'est qu'il faudrait avoir le moins possible de déchets à enfouir. Quand je dis le moins possible, c'est pas en mètres cubes, parce que c'est très peu de mètres cubes, mais en activité radiologique. Alors pour ce faire, c'est ce qu'on appelle la génération 4, qui permettra d'utiliser davantage les ressources énergétiques de l'uranium naturel et de réduire la quantité de déchets à stocker. Aujourd'hui, l'idée que c'est l'enfouissement profond, éventuellement réversible, parce que si on a des idées géniales pour la suite, on peut toujours changer de technologie. C'est ça qui constitue aujourd'hui la norme internationale.
Toujours pour rester dans votre étude, vous proposez d'investir dans les technologies dites transverses. Ça va être dur d'expliquer cela. Mais à quoi cela sert et avec quels moyens financiers ?
Alors, ça va être dur d'expliquer ça. Non, en fait, c'est assez simple. Bon, je vais prendre un exemple très concret. Vous avez des éoliennes, du photovoltaïque. Les éoliennes, ça produit quand il y a du vent, toute l'année à peu près pareil, mais en moyenne seulement. Le vent, bon. Le photovoltaïque, ça produit plus l'été, le jour, que l'hiver et la nuit. C'est évident. Donc, il faut essayer de trouver des solutions pour réguler tout ça. La solution, c'est de permettre que, dans les logements, on ait accès à la possibilité d'ajuster la consommation en fonction des capacités de production. Mais ça, c'est des systèmes de contrôle-commande, de technologie, de l'information, etc. C'est ce qu'on appelle les technologies transverses.
Jean Bergougnoud, ancien directeur général d'EDF, merci beaucoup. Je renvoie votre rapport au Conseil d'analyse stratégique.
Qui est disponible sur Internet.